Bonjour, nous allons vous présenter le racisme aujourd'hui vu par les lycéens et lycéennes.
Durant cette émission, il y aura une interview de professeurs, un micro-trottoir, une chronique sur la BD, comment devient-on raciste, un exposé sur les mécaniques du racisme, un débat sur deux expressions, les opposés s'attirent et qui se ressemble s'assemble.
Maintenant, nous allons écouter l'interview de deux professeurs.
Bonjour, nous sommes deux élèves de seconde 2. Je me présente Maëlys Desec.
Et moi, Lily Coste.
Nous sommes en présence de Madame Perrin, professeure au lycée Jean Vigo.
Bonjour.
Alors, nous allons vous poser quelques questions. Qu'est-ce que représente le racisme pour vous ?
Ben pour moi, le racisme, c'est vraiment l'intolérance, en fait. C'est vraiment la peur de l'autre. Je trouve que c'est du coup très important d'en parler, de l'évoquer, et ça ne peut pas laisser indifférent. Donc pour moi, oui, le racisme, c'est un peu l'intolérance poussée à son extrême.
En tant que prof, est-il facile de parler de racisme ?
Alors moi, je suis professeure d'histoire-géographie, et donc du coup, je prends aussi en charge l'éducation morale et civique. Et en éducation morale et civique, ce sont les questions qu'on aborde, en fait. On aborde toutes les discriminations, y compris le racisme. Et puis, c'est vrai que, en cours d'histoire, on parle du racisme. En cours de première, par exemple, on aborde la question de la colonisation française, la Troisième République colonisatrice. On parle du racisme. On parle aussi de la Seconde Guerre mondiale, du génocide des Juifs. Et donc, effectivement, ce sont des questions qu'on aborde. Alors, est-ce que c'est facile d'en parler ? Ce sont des cours qui sont souvent assez intéressants. Et moi, en tout cas, j'ai l'habitude de l'évoquer avec mes classes parce que ça fait partie intégrante aussi du programme scolaire.
Comment agiriez-vous si un élève subissait du racisme au sein de votre classe ?
Je pense que je serais extrêmement ferme parce que c'est très grave. Hein. Déjà, le racisme est puni par la loi, donc forcément, s'il y a un élève qui est victime de racisme en classe, il faudra effectivement prendre des sanctions. Après, je pense qu'il y a tout un travail à faire aussi avec la vie scolaire, avec la CPE, pour discuter avec l'auteur de ce racisme. Et puis, je pense aussi que c'est des choses qu'il faudrait du coup aborder en classe plus profondément.
Comment pensez-vous que le racisme évolue au fil du temps ?
Alors, j'aimerais bien vous dire que le racisme diminue, mais en fait, on se rend compte que les chiffres des crimes et des délits racistes qui viennent de sortir, là, nous montrent en fait que ces délits et ces crimes sont en légère hausse en 2022 et l'année dernière aussi. Et c'est vrai que depuis l'attaque notamment du Hamas contre Israël, on sait que les actes antisémites en France ont augmenté. Donc le racisme, il évolue et il continue à augmenter. Paradoxalement, beaucoup de Français se disent moins racistes. Mais en réalité, on voit que ces crimes et ces délits continuent à augmenter.
Depuis que vous êtes enseignante, avez-vous déjà été confrontée au racisme ?
Je dirais que j'ai été confrontée à un racisme qui n'est pas vraiment avoué. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que les élèves, pour la plupart du temps, se disent pas du tout racistes. Ils sont très, au contraire, très sensibilisés à cette question-là. Mais je me souviens, par exemple, de séances où, par exemple, au collège, quand on abordait la Seconde Guerre mondiale, etc., en fait, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de clichés qui étaient très encore ancrés chez les élèves. Notamment des clichés, antisémites, des clichés contre les Roms, les Tziganes. Et pourtant, des élèves qui se disaient pas du tout racistes et finalement qui se rendaient compte, en fait, qu'ils l'étaient un petit peu sans le vouloir. Et du coup, c'était assez intéressant de se rendre compte de ça. Et c'était du coup l'occasion de parler de ce sorte de presque racisme ordinaire, mais qui les élèves ne se rendaient pas compte qu'ils pouvaient, en véhiculant ces clichés, l'être en fait, au final.
Merci d'avoir répondu à nos questions, Madame Perrin. Nous avons interviewé parce que pour la sensibilisation des personnes qui écouteront cette radio.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Oui, alors je m'appelle Monsieur Rhin, je suis professeur de mathématiques depuis pratiquement 30 ans. Et là, ça fait 10 ans que je suis au lycée Jean Vigo à Millau.
Alors pour commencer, comment définissez-vous le racisme ?
Alors le racisme, c'est une notion qui laisserait croire qu'il existe une hiérarchisation entre les peuples, c'est-à-dire l'idée qu'il existe des races et qu'il y en aurait certaines qui seraient au-dessus d'autres. Voilà, c'est un peu l'idée du racisme, c'est ça, et ça se traduit après très souvent par des discriminations envers les gens de façon totalement ouverte. Et le racisme d'aujourd'hui, en fait, peut prendre aussi différentes formes. Je pense qu'il y a le racisme frontal, mais il y a aussi ce que j'appellerais le racisme ordinaire. c'est des petits mots qui peuvent passer inaperçus, c'est des blagues, quelle est la différence entre telle personne, pourquoi les personnes de telle origine font ci, etc. Donc ça, c'est des petites perles qui, accumulées, font que les gens peuvent se sentir effectivement discriminés.
En tant que professeur, comment abordez-vous le racisme en classe ?
Alors bon, moi, j'enseigne les mathématiques, donc c'est sûr que aborder le racisme en mathématiques, c'est pas forcément ce qu'on fait tous les jours. Bon, j'avoue qu'on n'est pas très discriminant envers les droites parallèles ou les droites perpendiculaires, ou qu'on aime autant les nombres positifs que les nombres négatifs, donc ça, c'est pas trop un souci. Après, en classe, oui, avec l'évolution des programmes, selon les niveaux, on peut aborder certaines questions, non pas du racisme, mais en fait sur l'origine des choses. Par exemple, faire découvrir aux élèves des théorèmes comme Al-Kashi, Al-Khwarizmi, etc., ou montrer l'origine du zéro qui vient des pays arabes, et mettre en contact les élèves avec toute cette culture différente de celle qu'ils connaissent, puisque le racisme commence très souvent par l'inconnu, on ne connaît pas l'autre, et quand on ne connaît pas l'autre, c'est là que la discrimination peut commencer à naître. C'est pour ça qu'en mathématiques, c'est essayer plus d'ouvrir les élèves à des cultures différentes pour apprendre à vivre ensemble.
Avez-vous déjà dû faire face à du racisme lors d'un de vos cours ? Si oui, comment l'avez-vous réglé ?
Alors, pour être tout à fait honnête, non, ça m'est jamais arrivé. Pourtant, je vous ai dit, j'ai pratiquement 30 ans d'enseignement, j'ai fait une dizaine d'établissements, certains en zone d'éducation prioritaire dans des banlieues proches de Paris. J'ai enseigné près de l'île de Madagascar dans l'océan Indien, j'ai enseigné en Martinique aux Antilles et ici aujourd'hui maintenant dans l'Aveyron. Et je, pour être très honnête, j'ai jamais été confronté à du racisme au sein de ma classe. Et j'allais vous dire en même temps que c'est pas étonnant, entre guillemets. Il y a du racisme partout, évidemment, mais je trouve que l'école, est, sans parler de sanctuaire, est quand même un lieu un peu particulier et qu'il y a moins d'actes racisme au sein d'un établissement scolaire qu'on peut en déceler à l'extérieur. Parce qu'au sein d'un établissement, on apprend justement aux élèves à vivre ensemble. Il y a tout un tas de choses qui sont mises en place. Vous avez des cours d'éducation morale et civique. Il y a plein d'activités qui sont organisées généralement aussi par la vie scolaire qui font que... Le vivre ensemble m'a l'air un peu plus simple au sein d'un établissement scolaire, dans l'école en général, qu'à l'extérieur.
Au niveau de l'école, pensez-vous que la présence de racisme a augmenté ou diminué en comparant avec votre enfance ?
Alors, si je me remets à votre place, lorsque je vais retourner comme lycéen, comme collégien, j'aurais envie de vous dire que oui, il y a eu une évolution au sein des établissements scolaires sur les 40 dernières années, où à mon époque, effectivement, un élève d'origine différente pouvait subir des moqueries de ses camarades. Et j'ai même été témoin en tant qu'élève d'une attitude d'un enseignant vis-à-vis d'un élève, mais pas de façon très ouverte, mais on voyait bien qu'elle n'aimait pas cet élève, elle le faisait bien ressentir et que c'était absolument pas lié à ses résultats, qui étaient relativement bons d'ailleurs, mais vraiment lié à ses origines. Donc oui, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a eu une évolution positive au niveau de la lutte contre le racisme au sein de l'école sur ces 40 dernières années, pas forcément à l'extérieur, comme je le disais tout à l'heure.
En tant que professeur, quelle est d'après vous votre responsabilité pour lutter contre le racisme ?
Ah bah déjà, c'est d'être vigilant. Une des premières choses à faire, c'est d'être vigilant à ce qui se passe au sein d'une classe, de manière globale. Hein, parce que si je commence déjà à faire une différenciation entre des élèves, parce que celui-ci est de telle origine, celui-là de telle origine, je suis déjà en train d'essayer de faire des distinctions entre les élèves, et c'est pas bon. Hein. Je vous ai dit que le racisme pouvait prendre diverses formes. Le racisme, c'est la discrimination. La discrimination, c'est aussi la xénophobie, c'est aussi l'homophobie, c'est aussi détester les différences chez les autres. Donc je crois que la responsabilité d'un enseignant, c'est avant tout d'être, un, très vigilant, et deux, à l'écoute des élèves qui pourraient éventuellement avoir des difficultés et qui pourraient venir m'en parler.
À présent, il va y avoir le micro-trottoir.
Bonjour, nous sommes Amy,
Basma
et Amy.
Nous allons vous passer un extrait d'un micro-trottoir que nous avons effectué dans notre lycée Jean Vigo à Millau. Nous avons interrogé plusieurs élèves et nous leur avons posé les mêmes questions pour avoir plusieurs avis et des réponses différentes. Les questions étaient: que pensez-vous du racisme? D'après vous, comment devient-on raciste? Si je vous dis hiérarchisation, essentialisation et catégorisation, à quoi cela vous fait penser?
Bonjour, je pense que le racisme est une chose très mauvaise qui devrait être interdite et punie par la loi. Même si ça l'est déjà, ça l'est pas assez.
Je trouve ça illogique, ça n'a aucun sens. Je vois pas pourquoi des gens
imagine qu'on peut classer l'être humain en différentes races.
Ce que je pense du racisme, c'est une mauvaise chose, forcément. Si c'est le racisme dans le sens premier, c'est-à-dire définir qu'il y a différentes races au sein de l'espèce humaine, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et d'autant plus que le racisme, pour moi, ça équivaut au fait qu'on classifie ces races-là. On va dire qu'on classifie les humains en fonction de leurs différences physiques. Et pour moi, il n'y a qu'une seule race, et c'est Homo sapiens.
Comment devient-on raciste, selon vous ?
Je ne sais pas du tout, mais je pense qu'il ne faut pas.
Je pense que ça vient de notre environnement, de notre famille, quand on est plus jeune, si nos parents et notre famille étaient déjà racistes auparavant. Je ne pense pas qu'on puisse le devenir totalement comme ça, de nous-mêmes. À part si, bien sûr, il y a des événements qui arrivent dans notre vie qui font qu'on commence à avoir une haine envers certaines personnes, je pense pas qu'on puisse être raciste naturellement.
Alors, selon moi, on devient raciste. On peut l'être très facilement, en fait. Ça dépend des personnes qui se retrouvent autour de nous. Il y a également, il y a une chose qui est réelle, c'est, sans parler du racisme, on peut parler de xénophobie avant. On peut très simplement avoir peur de ce qui n'est pas proche de nous, de ce qu'on ne connaît pas. Et dans ce cas-là, je peux comprendre une certaine peur, mais de là à rejeter, c'est là où on devient pour moi raciste. Pour moi, il faut qu'il y ait une inculcation derrière de la part, peu importe, de la famille, de l'entourage.
Si je vous dis catégorisation, hiérarchisation et essentialisation, à quoi cela vous fait penser ?
Alors, je peux me tromper. Et honnêtement, je pense que je me trompe, mais moi, ça m'a fait penser à L'origine des races, qui a été écrite par Kuhn. Et en fait, lui, c'est plutôt un anthropologue qui a essayé de, au XXe siècle, catégoriser l'espèce humaine en 5 différentes races. Mais je ne crois pas que son étude ait été forcément raciste, dans le sens où elle hiérarchisait pas. Par contre, elle a pu être portée par des gens qui étaient racistes et eux qui ont essayé d'utiliser sa façon de voir les choses pour hiérarchiser les races.
Pour conclure, la hiérarchisation, la catégorisation et l'essentialisation sont les 3 mécanismes du racisme. Effectivement, personne n'était au courant de ces 3 mécanismes-là.
Ces 3 mécanismes, on les a appris dans la BD intitulée « Comment devient-on raciste ?» dont nos collègues vont vous parler.
Maintenant, nous assistons à la chronique de la BD qui s'intitule « Comment devient-on raciste ?»
Alors bonjour, nous sommes des élèves de seconde 2 du lycée Jean Vigo et nous allons vous présenter la BD sur laquelle nous avons travaillé.
Comment devient-on raciste ? Cette bande dessinée a été créée juste après l'attentat du journal Charlie Hebdo. Ismaël Méziane, Carole Reynaud-Paligo et Evelyne Heyer en sont les auteurs et producteurs.
Quel est l'objectif de la BD et qui vise-t-elle ?
Cette BD a pour objectif de sensibiliser les personnes victimes de racisme en se mettant dans la peau d'un étranger maghrébin qui est confronté à une société qui vient de subir un attentat par des individus musulmans. Cette BD vise tout le monde, enfants comme adultes, car cette BD comporte des dessins qui permettent aux enfants de s'y intéresser et permettent de mieux comprendre les problématiques.
Pourquoi l'auteur a-t-il eu envie d'écrire cette BD ?
L'auteur a voulu créer cette BD car il veut parler des attentats du journal de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Il veut parler dans sa BD que les musulmans ne veulent pas subir ces violences dues à quelques individus. Quel est ton avis sur cette BD ? Que t'a-t-elle apprise ? Que reflète-t-elle sur la société ?
Cette BD est pour moi une bonne BD, car elle vise des personnes de tout âge et nous met dans la peau d'un étranger pour mieux comprendre leur point de vue. Cette BD m'a apprise que le racisme vient des stéréotypes et des clichés véhiculés. Elle reflète que l'on peut tous devenir raciste à cause des images véhiculées par la société qui peuvent ensuite devenir des comportements discriminatoires.
Alors Lucas, quel a été ton passage préféré de la BD « Comment devient-on raciste ?»
Mon passage préféré de la BD « Comment devient-on raciste ?» est le moment où il se parle de donner un nom à son enfant. Il pense à Riyad ou Reda pour un garçon et Jaïda pour une fille. Mais on lui dit de trouver un autre nom, de penser à Sanadir, car un prénom trop arabe sera mal vu.
Et toi Sanadir, quel était ton passage préféré ?
Mon passage préféré de la BD a été lorsque l'auteur réinterprète la société avec des bonhommes en couleur. Cette réinterprétation vient du personnage principal qui exprime son mal-être à cause des amalgames qu'il subit au quotidien.
Alors, nous avons bien aimé cette BD. Nous vous conseillons donc vivement de la lire. Elle est intitulée « Comment devient-on raciste ?» Merci de nous avoir écoutés.
Tout de suite, nous allons entendre l'exposé sur les mécaniques du racisme.
Bonjour, nous sommes Iris et Nora, Lilou, Raphaël et Maël. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du racisme d'un point de vue historique, mais aussi scientifique.
Ce sujet revient énormément dans nos vies malheureusement. Par exemple, de nos jours, un goal de joueur de France de foot s'est fait viser par des insultes racistes lors d'un match car il est de couleur noire. Pour cette chronique, nous nous sommes basés sur les travaux d'Evelyn Heyer, généticienne, mais aussi sur le réseau Canopé. D'où vient le mot racisme ? Le mot racisme est né en 1888. Il apparaît en 1902 en France et au Royaume-Uni et devient d'emploi courant dans les années 1920 pour désigner les activités des groupes d'extrême droite, notamment en Allemagne, et leur doctrine. Pour mieux comprendre, nous allons vous donner une définition simple du mot racisme. C'est une idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains autrefois appelés races. C'est aussi un comportement inspiré par cette idéologie. Dans le mot racisme, on entend le radical race. Mais alors, penchons-nous sur cette approche du mot et remontons un peu le temps afin de mieux comprendre comment a évolué la notion de race humaine. Avons-nous déjà pensé qu'il existe plusieurs races ? Que savons-nous maintenant ? Nous allons tenter d'expliquer tout cela avec Raphaël, Enora, Maël et Lilou.
La notion de race existait avant le 18, 19 et 20e siècle, mais elle s'est concrétisée dans cette période où les scientifiques classaient toutes choses. Autrefois, dans l'idée de race, on trouvait l'idée de catégorisation, c'est-à-dire la division en catégories des races selon des critères précis. On distinguait alors 5 types de races différentes d'humains, basées sur des analyses des crânes humains. Cette étude ou cette pensée a été véhiculée par un anthropologue allemand du 18e siècle, Johann Friedrich Blumenbach. Mais à la catégorisation des races s'ajoutait la hiérarchisation de l'espèce humaine. Cette notion de hiérarchisation apparaît dans un phénomène colonial marqué par la domination des peuples européens. Certains scientifiques, comme Paul Broca, pensaient qu'il existait des races supérieures, notamment la race blanche, et des races inférieures, dominées par les Européens. Mais à cela s'ajoutait l'essentialisation, c'est-à-dire le fait d'attribuer une caractéristique essentiellement morale en fonction des races. On déterminait par exemple les Européens comme munis d'un esprit aiguisé, inventif et gouverné par des lois. Ainsi, rentrait en compte dans la notion de race un attribut à la fois physique mais également moral. Ces idées, essentiellement basées sur des pensées plus que sur de la science, se sont notamment diffusées par des livres et cela jusque dans les années 1930, mais également dans des manuels d'histoire géo où la hiérarchisation des races en fonction de la couleur de peau des humains y figurait. Ou encore dans d'autres livres plus populaires, comme le Tour de France par deux enfants, au XXe siècle. Ce dernier véhiculait l'idée que la race blanche dominait les autres races.
Dès 1919, des études sont menées du fait du métissage pendant la Première Guerre mondiale sur les groupes sanguins. Ainsi, les médecins et scientifiques vont donc trouver et mener des recherches pour s'apercevoir que plusieurs groupes sanguins existent, A et B. Très vite, ces résultats vont être justifiés par le fait qu'il existerait deux races pour chacun des groupes sanguins. Mais plus tard, avec l'avancée dans les recherches, se distinguent en réalité des diversités de groupes sanguins à peu près dans toutes les populations humaines. Cela va donc mener à dire que finalement, les groupes sanguins ne sont pas liés à une race, ce qui contredit les hypothèses de départ et ne justifie pas scientifiquement l'idée de plusieurs races. Très vite, après de multiples recherches, l'avancée dans le temps et de la médecine, une étude complète du génome humain a été révélée. Ce dernier se compose donc de à peu près 25 000 gènes répartis sur 21 paires de chromosomes. Ce que l'on étudie sur les gènes est la mutation de ces derniers, soit la façon dont l'information génétique portée sur nos gènes est exprimée et donc détermine les caractères humains. Ainsi, malgré les petites différences sur le génome humain, en étudiant la diversité de l'espèce humaine, les scientifiques se sont donc aperçus que dans notre espèce, nous avons seulement 1 pour 1000 de différence. Autrement dit, nous nous ressemblons donc à 99,9%. La diversité sur le plan génétique à l'intérieur de l'espèce humaine est donc très faible, même si c'est pourtant elle qui est à l'origine des multiples attributs humains. Pour conclure, nous pouvons donc dire que la notion de race n'a aucun fondement biologique. Cela a été démontré par plusieurs domaines de la science, notamment la génétique, l'anthropologie et la biologie évolutive.
Ces découvertes et concepts remettent en question la validité de la classification humaine en races biologiques distinctes. De plus, la communauté scientifique s'accorde généralement à dire que les différences entre les groupes humains sont mieux expliquées par des facteurs environnementaux et culturels plutôt que par des différences biologiques.
Pourtant, dans l'histoire, les théories racistes ont servi à justifier certains projets politiques de domination d'une prétendue race sur les autres. Peux-tu nous donner un exemple ?
En effet, les idées de certains scientifiques ont influencé les théories racistes du XXe siècle. Ces théories comprenaient l'idée de la supériorité de certains groupes humains. la sélection naturelle favorisant les plus forts, la peur du mélange des races considérées comme nuisibles et la lutte pour la survie. Ces idées présentes dans Mein Kampf d'Adolf Hitler en 1924 ont été tirées de travaux scientifiques du 19e siècle. Au cours du 20e siècle, la science a été utilisée pour justifier les théories racistes qui ont conduit à la destruction des Juifs et des Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale. La notion de pureté de la race a contribué à l'établissement d'un ordre racial avec des pratiques, des institutions et un racisme d'État.
Que sait-on de plus d'après la science à propos des races ?
Comme dit précédemment, la notion de race humaine ne permet pas d'expliquer notre diversité génétique ni notre évolution. Les généticiens ont constaté que 99,9% de l'ADN est rigoureusement identique entre deux êtres humains. Et sur les 0,1% de différences, seulement 5% en moyenne sont liés à des différences entre populations parfois très éloignées géographiquement. Ce n'est donc qu'une poignée de mutations qui différencient en moyenne les populations humaines, sur des millions voire des milliards d'individus. De plus, les généticiens ont trouvé que seules quelques dizaines de mutations parmi plusieurs millions entre deux individus déterminent leur différence de couleur de peau. Choisir de classer les humains en fonction de leur couleur de peau est finalement aussi inefficace pour expliquer l'évolution et la diversité génétique de notre espèce que de le faire en fonction de la couleur des yeux, des groupes sanguins ou de la taille des oreilles.
Merci à tous de nous avoir écoutés, c'était la chronique historique des secondes.
Nous sommes à présent avec un groupe de trois garçons qui vont nous présenter une petite chronique en amont du débat qui se ressemble, s'assemble ou les opposés s'attirent. On va les entendre parler de leurs différences et de leurs caractéristiques communes. À vous la parole.
J'aime jouer aux jeux vidéo.
Moi aussi.
Moi non, je n'aime pas.
Je suis musulman.
Moi aussi.
Moi non, je suis athée. Je suis le grand frère.
Moi aussi.
Je suis le plus petit.
J'aime jouer au foot.
Moi aussi.
Moi non, je n'aime pas le foot.
Je fais de la boxe.
Moi du foot.
Et moi du handball. Je suis discret.
Moi je suis toujours heureux.
Je m'exprime beaucoup.
Je suis d'origine tchétchène.
Je suis algérien.
Moi je suis d'origine italienne. On est tous différents mais on arrive à être amis.
Tout ce qu'on a dit prouve que les opposés s'attirent.
À présent, nous allons écouter le débat sur les deux expressions. Nous sommes maintenant avec le premier groupe du débat, les opposés s'attirent et qui se ressemblent s'assemblent, et je vous laisse donc débattre.
Je crois vraiment à l'idée que les opposés s'attirent, notamment parce que dans une relation, il faut des nouveautés et des surprises. L'unicité d'une personne peut apporter de la nouveauté, de l'imprévisibilité dans une relation, et cela peut créer une dynamique.
L'idée selon laquelle qui se ressemble s'assemble peut faciliter la communication en créant un terrain commun, partager des similitudes que ce soit intérêts, valeurs, expériences, élimine les obstacles potentiels à la compréhension mutuelle. Cette affinité crée un environnement propice à une communication fluide où des personnes ont des références communes et une meilleure compréhension des nuances de l'autre.
Je suis pas tellement d'accord avec ce que tu dis parce qu'une personne plus calme peut apporter de la stabilité à un partenaire plus impulsif et vice versa. Le fait d'être opposé dans un couple peut apporter un équilibre émotionnel stable, comme la diversité émotionnelle, qui peut favoriser un soutien mutuel en offrant des perspectives différentes face aux défis.
Les individus qui se ressemblent ont souvent une préférence pour ceux qui partagent une valeur, leur intérêt ou leur manière de voir le monde. Ces similitudes créent un trait commun qui facilite la communication et renforce le sentiment de connexion.
Les personnes ayant des goûts et des personnalités différentes peuvent se compléter. Un sentiment d'équilibre peut se créer grâce aux forces des uns et des faiblesses de l'autre qui peuvent se compenser.
Être avec quelqu'un qui est votre opposé peut vous aider à équilibrer vos propres émotions. Par exemple, si vous êtes avec quelqu'un de très rationnel, sortir avec quelqu'un de plus intuitif peut vous encourager à être plus en contact avec vos sentiments et vos émotions, ce qui peut être bénéfique pour votre bien émotionnel global.
Nous allons à présent écouter le deuxième groupe qui fait un débat entre les opposés s'attirent et qui se ressemble s'assemble.
Les personnes opposées peuvent souvent équilibrer l'action et la réflexion dans une relation. Si l'un des partenaires est plus courageux ou est plus capable de prendre des risques sur certaines actions, tandis que l'autre est plus prudent et réfléchi, cela peut créer un équilibre sain. Ensemble, vous pouvez trouver un juste milieu avant d'agir de manière impulsive et de prendre le temps de réfléchir aux conséquences de vos actions.
Oui, mais les individus,
s'ils sont semblables, ils peuvent créer des centres d'intérêt, enfin ils ont des centres d'intérêt similaires et du coup ils peuvent créer des projets ensemble et se voir évoluer ensemble.
Sortir avec quelqu'un qui est différent de vous peut vous aider à embrasser la diversité et à être plus ouvert aux différences. Cela peut contribuer à un sentiment d'acceptation et de respect mutuel au sein de la relation.
Sortir avec une personne qui nous ressemble est plus facile car les personnes qui nous ressemblent physiquement, on est plus attiré vers eux par leur style vestimentaire qui nous ressemble, des traits communs qu'on a ensemble ou être plus à l'aise parce qu'on est très commun et qu'on a les mêmes valeurs.
Interagir avec quelqu'un qui a une perspective différente peut vous stimuler intellectuellement et émotionnellement. Des perspectives différentes peuvent conduire à des conversations stimulantes et à une croissance intellectuelle.
Pour préparer cette émission, nous avons assisté à 6 heures d'activité autour du racisme pendant les heures de MC. Ce projet a été mené par la classe de seconde 2 du lycée Jean Bigot à Millau.
Organisé par Madame Perrin, professeure d'histoire-géographie EMC, en partenariat avec Sophia de Radio Larzac.
Merci de nous avoir écoutés.